Bonsoir Paris. Le Paris Saint-Germain s'impose 2-0 face à l'OGC Nice. Un match plutôt compliqué. On a la victoire, mais franchement, on a souffert. Match que j'ai trouvé très difficile à regarder. Tellement on était faible au milieu de terrain, notamment. Alors ce soir, on est avec nos tontons et on a Alexandre Afalo du Parisien, de SoFoot notamment. On va commencer avec toi, Alex. Tes impressions générales sur le match que tu as vu ce soir?
comment dire, c'est un match qui résume bien le PSG cette année, c'est-à-dire c'était un match pas très agréable à regarder, pas très rassurant pour la suite, et que tu gagnes de manière presque miraculeuse. Donc je pense que le PSG peut se c'était très heureux de repartir de Nice avec les 3 points, parce que Nice a vraiment pas démérité. Ils ont eu des temps forts sacrément pesants sur la défense du PSG, et sans un immense Donnarumma, je pense que le PSG repart avec sans coach ce soir. Donc voilà, un match quoi, qui me rassure pas du tout, en tout cas. Malgré la victoire qui fait du bien, qui ne m'assure pas du tout pour la semaine prochaine, notamment en termes de d'intensité. Je pense que ça reste toujours le plus gros point faible de ce PSG. Pas assez de hargne, pas assez d'envie, pas assez d'énergie. Et ça, face à Lens, ça ne pardonnera pas. Voilà.
Et toi, Tonton?
Un match dont le score ne reflète pas la physionomie. Un score assez chanceux au final, par rapport au nombre d'occasions procurées. Le PSG n'a tiré que 13 fois ce soir pour 4 tirs cadrés. Tu marques 2 fois, tu es dans la réussite maximale. En face, Tanis qui a tiré 21 fois sans un Didio Donnarumma de très très haut niveau. Tu n'es pas sûr, comme le dit Alexandre précédemment, de repartir avec les 3 points et même un coach. Match très compliqué de toute manière, parce que déjà tu commences avec un Renato qui tient pas longtemps, un Carlos Soler qui était censé avoir le rôle ingrat au milieu et qui n'a pas été très utile tactiquement. Nuno qui sort pour un El Shaddai qui le remplace poste pour poste. C'est un match assez compliqué, on va pas se cacher.
Ok, les gars, je voulais revenir avec vous sur le fait qu'il y a eu 2 matchs dans le match. On a vu en première mi-temps où quand Nice a peut-être essayé de jouer à 3 pour essayer de se calquer sur notre système pour le rendre un peu moins fort, ça leur a pas trop réussi. On a vu qu'ils ont peut-être un peu souffert au début. Une fois qu'ils sont passés à 4 derrière, je crois qu'on a plus vu le ballon, s'est fait manger au milieu de terrain jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu d'autres temps forts. On a eu des contre-attaques, mais j'ai pas eu d'autres temps forts. Toi, tu as pensé quoi du changement de tactique de Didier Digard, Alexandre?
J'ai trouvé ça intéressant, effectivement. Clairement, il y a eu 2 matchs, c'est-à-dire il y a eu vraiment le début de rencontre où PSG a un peu plus dominé, on va dire maîtriser un peu plus le rythme de la rencontre. Et puis après, un truc qu'on trouve beaucoup chez d'autres entraîneurs, mais qu'on trouve pas beaucoup au Paris Saint-Germain, c'est cette capacité finalement à s'adapter en cours de match, à identifier les faiblesses de son équipe et à proposer des solutions sur le tas. Ce que Didier Digard a très bien fait avec ce changement de système. Et effectivement, tu le disais très très justement, à partir du moment où Nice a changé de système, c'est-à-dire à partir du milieu de la première période à peu près, il n'y a pas eu un seul temps fort parisien, beaucoup de temps faibles, beaucoup de contres. Et en fait, c'est vrai que un truc que je trouve très très agaçant, et puis à la fois un des trucs que le PSG a perdu depuis quelques années, c'est cette capacité à vraiment annihiler les temps forts adverses. Le PSG, à une époque, pouvait subir des temps forts de son adversaire, et puis voilà, par la possession, par le jeu de passe, par la technique tout simplement, parvenait tout simplement à calmer ses temps forts. Là, quand Nice avait des occasions, c'était par 3, par 4, par 5, ça s'arrêtait pas quoi. Et encore une fois, on en reparlera, j'imagine, tout à l'heure, sans un grand Donnarumma et sans la barre, les temps forts, ils peuvent se transformer en but. Et voilà, et le PSG marque sur ces deux grosses situations de la rencontre. Donc, voilà, c'est beau, très efficace, on va dire, mais pas très rassurant, comme on l'a dit tout à l'heure.
Et toi, Tonton?
Bah, justement, on en a un peu parlé dans le groupe en off avant le live. Il y a un truc que je constatais, et ça, c'est un truc que j'ai vu des deux côtés. T'avais pas ce joueur qui jouait entre les lignes au niveau du milieu de la défense pour perturber, pour proposer une solution. Et bah, ça a beaucoup manqué, en fait. Et Carlos Soler devait assurer ce rôle côté parisien, ça n'a pas été fait. Aaron Ramsey, je pense, avait ce rôle côté niçois. Ça n'a pas été vraiment fait, mais à partir du moment où Digard est passé à 4, en effet, bah, Paris, tu as vu encore plus les carences. Quoi. Je veux dire, l'absence d'un œuf sur lequel tu pouvais vraiment te fixer pour proposer une solution et que Mbappé et Messi puissent prendre, je sais pas, le demi-espace. Tu n'avais pas de 6, du coup, tu n'avais pas de milieu qui serait projeté réellement entre les lignes pour proposer une solution de passe, pour faire la liaison entre le milieu, la défense et l'attaque. Donc oui, le changement a complètement tué tactiquement le PSG. Et tu le soulignes bien, c'est même pas un temps fort. On marque sur un corner, sur le deuxième but. Donc, tu ne crées pas vraiment d'occasion sur la deuxième partie. Et pour le peu que tu t'en procures, l'action de Mbappé où il est hors jeu et où il arrive à tirer au-dessus alors qu'il est parfaitement servi pour terminer, il y a vraiment quelque chose de criant et de dangereux dans cette équipe, en tout cas actuellement.
Ok.
Ça fait trois matchs, ton micro, il est coupé. Mbappé quand même. Ouais.
Non, c'est bon, ça y est.
Non, c'est bon. Non, je disais, ça fait trois matchs quand même que Mbappé n'existe pas trop. Tout en plus, t'en parlais, Mbappé, là, il nous sent encore un... Bah, on va pas l'accabler, parce que c'est le meilleur par exemple cette saison, hein, mais il sort encore un match très très compliqué, je trouve, ce soir. Au-delà de son raté, qui est complètement fou, même s'il était hors-jeu, t'as pas le droit de rater ça. Très très peu de frappe, très peu d'impact sur le jeu, etc. Et c'est intéressant, parce que tu parlais justement de cette absence d'un vrai attaquant central qui pouvait apporter des choses dans ce PSG. Moi, c'est ça que j'ai vu notamment, enfin on a vu notamment plusieurs situations où ça partait en attaque parisienne, mais il y avait personne qui suivait, soit Hakimi, soit Mendes, personne qui montait, personne à la réception d'un potentiel centre. Il manque vraiment ce profil là quoi dans cette équipe, et ça se voit. Et c'est vrai qu'une fois que les défenses ont compris comment museler un peu Mbappé, là, en l'occurrence, ce soir, il n'était pas très dangereux, bah, ça fonctionne. Quoi. Donc voilà, c'est, encore une fois, c'est assez frustrant ce genre de match à regarder.
Alors, il y a notre ami supporter lyonnais, Mr. Ken, salut à toi, qui dit quelque chose de très vrai. Il nous dit, le pire, c'est que Nice a été beaucoup plus fort que Lyon la semaine dernière. Et franchement, et là, on gagne. Mais franchement, ils nous ont mangé. Je suis niçois ce soir, je suis dégoûté. Je suis complètement dégoûté. Il y avait de la place pour faire beaucoup mieux que ça. Ok, moi je vois que vous êtes beaucoup à vouloir parler de Kefren Thuram. On va garder ça un peu pour un peu plus tard dans le live. On va essayer d'attaquer peut-être les individualités. Petit à petit, on va commencer par le boss, on va dire peut-être l'homme du match. On va dire que c'est lui, parce que Nuno Mendes, après, ça a flanché un petit peu. Mais Donnarumma, son match, il était... sans faute. Donc, vous mettez quelle note à Donnarumma et pourquoi? Vas-y, Alex.
C'est une note sur 10?
Ouais.
Bah, 9. 8,5, 9. Pourquoi? Parce que il est ultra décisif. Il fait des arrêts... Alors, c'est marrant parce que sur Canal+, ils avaient l'air de trouver que tous les arrêts étaient faciles.
C'est ouf,
y a un peu le côté c'est facile pour un gardien de son niveau, mais en même temps c'est des arrêts qu'il faut faire, c'est des arrêts qui sont pas forcément évidents. L'arrêt sur PP en première période, il faut se placer, il faut le dégager de la jambe, etc. c'est pas évident. Il y a des tirs qui sont sur lui, mais enfin voilà, cette capacité à descendre très vite, malgré son grand gabarit, il a une vitesse d'exécution qui est complètement folle. Et c'est vrai que depuis le début de l'année civile, il y a beaucoup de joueurs qui déçoivent. Lui, je trouve, déçoit assez rarement. Et là encore, il fait un match hyper décisif. On l'a déjà dit depuis le début de cette émission. Sans lui, le PSG peut prendre 3 buts, là, mais facilement. Et il fait des arrêts décisifs très très importants, très très spectaculaires. Et c'est vraiment là qu'on... En fait, il a montré le meilleur de ce qu'il pouvait faire sur ce match.
Tonton, juste avant de te laisser parler, vous êtes actuellement 150, donc on veut au moins la moitié des likes, comme d'habitude. S'il n'y a pas 75 likes, on va pas être d'accord, les gars. Vas-y, Tonton.
Bah, Je vais rester environ dans la ligne d'Alexandre, c'est compliqué de mettre une autre note, mais j'ai essayé de me démarquer, d'être original et de mettre un petit 8,75 sur 10. Dans le sens où Didier Donnarumma fait un match de haut niveau. Et les propos que tient Alexandre, c'est des propos qui ont été tenus par Mickaël Landreau à la mi-temps, qui a lui-même été gardien du Paris Saint-Germain. Et je propose qu'on fasse une séance vidéo des arrêts de Mickaël Landreau quand il était gardien du PSG. Non, on va pas être méchant, on va plutôt parler de Gigio Donnarumma. Pour comparer par rapport à Gigio Donnarumma, il faut se rappeler que dans certains soirs où Gigio n'a pas été en confiance, on prend une valise. Il y a des soirs où il aurait pris au moins la moitié des buts qu'il a encaissés. Et il faut souligner que de plus en plus, tu as des matchs où il arrive à être fort mentalement et à sortir des performances qui nous sauvent. Je pense au match contre Monaco qu'on perd, mais si Gigio Donnarumma n'est pas là contre Monaco, c'est pas 3 qu'on en prend, c'est peut-être 7. Et peut-être, je dis bien peut-être, que l'absence de la présence de Navas, ça lui enlève peut-être une pression, dans le sens où il sait que c'est lui le numéro 1. Il n'y a pas la concurrence avec Sergio Rico de se dire que Sergio Rico est numéro 1 bis, qui était déjà numéro 1 avant son arrivée, et peut-être que Donnarumma va enfin pouvoir faire des prestations de haut niveau et les enchaîner. Mais j'aimerais qu'il continue ce genre de performance, en tout cas sur la régularité jusqu'à la fin de saison.
Ok, bah là on va passer du côté top, à probablement côté flop, parce que là on va parler de notre latéral droit, Achraf Hakimi, que franchement je comprends pas, je ne comprends pas. C'est un joueur, ses deux derniers clubs, même techniquement, j'ai jamais vu autant de déchets. C'est... Je comprends qu'il soit pas en confiance, mais il rate quasiment tout ce qu'il fait. Toutes les contre-attaques où il peut faire juste la dernière passe et nous mettre dans de bonnes conditions, il les rate. Ses contrôles, il les rate. La seule chose que je peux lui accorder par rapport à ses coéquipiers, notamment du milieu de terrain, c'est l'agressivité. Là, je trouve que dans les duels, il arrive quand même à gagner certains duels à l'épaule, ce genre de choses. Mais techniquement, c'est pas terrible. Donc je vous laisse noter Achraf. Vas-y, Alex.
Quatre, ouais, comme tu le disais, un match intéressant dans l'énergie, dans l'agressivité, certains ballons récupérés qui étaient assez intéressants. Il y a un moment, moi, qui me vient à l'esprit où justement il récupère un ballon, puis il s'énerve parce que ça ne suit pas derrière pour. Enfin, le ballon, enfin, il fait un tacle et c'est récupéré direct par les Niçois alors qu'il y avait moyen d'aller chercher. Il s'énerve un peu et on sentait qu'il avait ce truc-là. Après, oui, pareil, c'est plusieurs montées de balles où en fait personne ne le suivait et de toute façon, bah, voilà, il ne peut rien faire d'autre. Après, moi, c'est vrai que Hakimi, c'est une frustration pour moi, mais même je vais pas aller, je vais aller au-delà de ce match. Hein. Depuis son arrivée au PSG, il a dû faire allez, dizaines, quinzaines de matchs vraiment très très bons où tu sors de là et tu te dis c'est un top latéral mondial. Et puis le reste était quand même assez décevant. Bon, je suis pas loin de me dire que c'est un peu un flop depuis son arrivée au PSG en fait, Hakimi, malheureusement, parce qu'on, comme tu le disais en fait, on retrouve pas du tout le Hakimi qu'on avait à Dortmund, qu'on avait à l'Inter Milan, qui était un joueur vraiment vraiment décisif, qui pesait vraiment sur les résultats de son équipe. Et on pensait que ce système de jeu allait vraiment lui permettre de s'exprimer à son plein potentiel. Ça a été le cas pour Nuno Mendes, qui lui pour le coup fait un match une nouvelle fois splendide et qui est un vrai top joueur, un vrai top 5 à son poste dans le monde. Mais Hakimi, c'est je sais pas ce qui, effectivement je sais pas pourquoi c'est aussi compliqué pour Hakimi. Voilà, écoute, à part être pote d'Mbappé en ce moment, j'ai pas l'impression qu'il fasse grand chose au Paris Saint-Germain, donc mais bon, c'est moi j'aimerais le voir à son meilleur niveau. Pour l'instant, le constat c'est ça. Le constat c'est qu'il est pas. J'ai l'impression qu'il est pas dans sa saison, quoi. Mais c'est très dommage. Très dommage parce que ça reste un joueur super, quoi.
Tonton.
On en revient à un débat en fait qu'on a déjà eu il y a longtemps dans l'émission. Et au final, plus tu le remues et plus il y a des choses qui apparaissent évidentes. Quand tu compares le Hakimi du PSG à celui de Dortmund et Inter de Milan, il y a vraiment quelque chose sur le terrain qui est très très différent. C'est que Hakimi, cette fois, il n'a pas de neuf dans la surface, donc il ne peut pas centrer dans la surface. Et ça s'est encore vu ce soir. Quand il doit faire ses... Pour le peu de fois que tu arrives à trouver Hakimi dans la profondeur et qu'il est lancé, et bien, il doit centrer en dehors de la surface, aux abords de la surface, vers un Messi, vers un Mbappé, voire même renverser le jeu. Et en fait, il n'y a pas une solution où il peut mettre un ballon clinique dans la surface et il y a un neuf qui va arriver, couper ce ballon et le mettre au fond. Et en plus de ça, tu rajoutes que le jeu penche très fortement à gauche. Ce n'est non pas de la faute de Nuno Mendes non plus, mais à un moment, bah, si Hakimi jouerait à gauche, je pense qu'il aurait plus de cartouches que s'il était à droite. un autre débat qu'on avait déjà eu aussi. Et le problème, c'est que quand tu additionnes tout ça, bah, tu peux te dire, bah ouais, Hakimi, c'est pas le même joueur qu'il est au Maroc, c'est pas le même joueur qu'il est avec l'Inter, avec Dortmund. Mais quand tu fais le constat sur le terrain, est-ce qu'en même temps, tu peux t'attendre à autre chose en sachant que, contrairement à l'Inter, c'est pas une clé de voûte. Il y a déjà Messi, Mbappé qui sont les leaders sur le terrain et qui doivent terminer les actions. Donc à un moment, tu te retrouves avec une utilisation différente de Hakimi. Ceci étant dit, bah, quand tu fais le comparatif avec Nuno Mendes, ça fait un peu mal. Tu peux te dire qu'Hakimi, lui aussi, doit mettre quand même un peu plus du sien pour réussir au PSG.
Mais ce que tu dis, c'est intéressant et quand même, moi je trouve que bah, c'est justement ces courses pour couper les centres, ces appels dans la profondeur quand tes latéraux montent, ça normalement Mbappé, moi j'ai déjà vu le faire plein de fois. Là sur ce match-là, on ne voit pas du tout faire des appels dans la profondeur, on ne voit pas du tout rentrer côté gauche vers le côté droit pour déstabiliser la défense, se rendre disponible dans la surface au niveau du point de penalty, récupérer un centre en retrait d'Hakimi, rien. Ce soir, on ne le voit jamais, on le voit.
Faire un appel pour faire ça, quoi. Pour descendre le bloc niçois et provoquer un
bien sûr. Bien sûr. Mais donc effectivement dans ce PSG il y a peut-être un manque de ce point de fixation autour duquel Mbappé pourrait tourner, parce que visiblement c'était son souhait, c'est comme ça qu'il voulait jouer, etc. Mais en même temps, dans l'animation offensive, les mecs ils ont aussi le droit de faire des courses, quoi. Ils ont aussi le droit de faire des appels quand les latéraux ils montent, quoi. C'est pas interdit, hein. C'est pas parce que tu t'es Messi, t'es Mbappé qu'il faut que tu joues 25 mètres derrière la surface pour avoir le ballon tout le temps dans les pieds, organisé et ah ouais, parce que sinon il n'y a plus personne devant en fait pour finir les actions en fait. Donc, Gatier qui parlait de modifier l'animation offensive. Ouais, et t'as trois milieux qui sont capables de le faire aussi, quoi.
Mais lequel des trois est censé se projeter donc, ouais, non, c'est, dans la surface. Tu les as pas.
Bah ouais. Bah non, surtout que en plus, on a l'impression qu'ils osent même pas le faire parce que c'est un peu leur. S'ils avancent trop. Vitinha le faisait beaucoup en début de saison, ceci dit. Vitinha, quand ils ont les matchs de pré-saison et les premiers matchs de Ligue 1, etc., ils montaient énormément parce qu'ils compensaient quand Neymar redescendait sur le terrain. Lui, il venait vraiment numéro 10. C'est lui qui faisait les courses de la surface, etc. Maintenant, il le fait plus du tout. Donc voilà. C'est vrai que nos milieux, enfin les milieux qui sont censés être offensifs, ne sont plus trop. Et puis les attaquants, ils jouent au milieu. Donc c'est sûr que pour les latéraux, c'est pas facile, quoi. Voilà. Même si le premier but vient sur une action comme ça, hein, avec Nuno Mendes qui fait un centre dans la surface, mais c'est bien la seule fois que ça s'est produit dans le match, ce qui est dommage, parce que ça y a souvent des buts qui viennent comme ça au PSG, c'est un peu curieux.
Vous êtes 200 à nous regarder, on attend 100 likes, on va aborder bientôt les milieux, notamment restez connectés parce qu'on va parler de Carlos Soler, on va essayer de ne pas l'insulter, mais je promets rien, restez là. On va tout de suite aborder Marquinhos, qui pour moi fait un match plutôt correct, qui nous sauve à plusieurs reprises sur des tacles avec beaucoup d'agressivité. Donc je vous laisse noter Marquinhos. Vas-y Alex.
Noter Marquinhos. Alors j'avoue que c'est pas celui qui m'a le plus marqué dans la défense centrale aujourd'hui. Peut-être 6,5, 7. Qui fait un bon match. Je le mettrai peut-être un cran en dessous de Danilo et de Ramos qui ont été peut-être à mon sens plus décisifs, pardon. Je bégaye. Côté plus décisif à mon sens, qui ont été peut-être un peu plus marquants en tout cas dans les principaux faits de jeu. Après Marquinhos, pardon, à son crédit. Ça fait quelques matchs qu'il enchaîne, je trouve des performances qui sont pas mauvaises. Donc c'est déjà un mieux par rapport à certains matchs de cette saison, il était vraiment pas bon. Donc ouais, Marquinhos, c'est un. En tout cas, je pense que ce sera bon pour la confiance qu'il y ait ce clean sheet. Pour lui, en tout cas, avec ce bon match et le fait que le PSG n'ait pas craqué, ça peut avoir son importance pour la suite de la saison.
Bah, si tu compares le Marquinhos que tu es censé avoir, bah, c'est un match correct. Après, si tu compares au Marquinhos que tu as depuis janvier de l'année dernière, bah, tu peux dire que c'est quand même un très bon Marquinhos parce que on a vu des performances de lui. Vraiment à s'arracher les cheveux et à avoir très très mal. Et là franchement, comme l'a dit Alexandre, c'est vrai que c'est pas le premier auquel tu penses parce que Danilo fait des interventions défensives décisives, notamment celle où il garde un genou à terre pour être sûr de pouvoir se relever quand il tacle et pas faire la bêtise de mettre les deux jambes glissées et provoquer une faute sur Terem Moffi. De l'autre côté, t'as Ramos qui marque sur corner. Donc à un moment, c'est pas celui qui se détache le plus, mais si tu fais le comparatif au Marquinhos du début de saison, le Marquinhos qui a joué contre le Real Madrid la saison dernière, le match retour, tu peux te dire qu'il y a quand même du mieux. c'est à lui de continuer en fait sur cette lancée en fait. C'est à lui de continuer à être le Marquinhos qu'il est censé être. Donc c'est un peu embêtant parce que Alex depuis tout à l'heure il dit exactement à peu près les notes que je veux mettre, donc je vais pas être très original. je vais mettre 7, mais je vais pas mettre plus.
Bah pour le prochain, c'est toi qui noteras en premier.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire exactement. Celui qui commence, on va voir s'il veut te copier ou si non, c'est la réalité.
Non, je pense qu'on est
à peu près
d'accord.
Ok, alors on va aborder Sergio Ramos qui a un match plutôt à deux faces. Sa première mi-temps, je l'ai trouvé en dessous de moyen. Il a eu pas mal de pertes de balles, il nous a mis en danger à deux reprises. Mais c'est le buteur qui nous soulage à la fin du match et qui nous permet de terminer le match avec sérénité. Donc tonton, du coup, donne-nous ta note de Sergio Ramos et pourquoi. Et en commentaire aussi, n'hésitez pas à donner vos notes aussi pour participer.
Ramos, je vais mettre 6,5 dans le sens où, quand tu regardes, comme tu l'as dit, la première mi-temps et l'aspect défensif, tu as notamment cette relance catastrophique dans l'axe qui aurait pu donner une action de but si tu joues contre une top équipe européenne. Ramos, au début, il a beaucoup de mal dans ce match. Mais en même temps, quand tu vois la présence de Ramos dans la surface adverse sur chaque coup de pied arrêté, c'est le seul joueur du PSG qui est dangereux en fait sur nos corners. Donc, tu es obligé de le prendre en compte parce que tu n'as pas d'attaquant. Tu n'as pas ce fameux neuf qui va mettre la tête sur corner. Les autres défenseurs ne se sont pas montrés plus que ça sur les phases offensives. Les milieux non plus. Donc, au final, Ramos sur le terrain, ça reste la seule menace offensive aérienne, si on peut dire comme ça, pour ceux qui ont joué à FIFA. Donc je vais lui mettre un 6,5 parce que il peut faire mieux défensivement, mais offensivement il fait une très bonne prestation.
Vas-y Alex.
Moi je vais mettre un peu plus. Je vais mettre 7 voire 7,5. Parce qu'effectivement, on a parlé de ces deux petites pertes de balles en première période qui auraient pu être préjudiciables. Mais en fait, à part ça, un match sérieux, un match où il s'est pas fait dépasser, il y a beaucoup de dégagements, beaucoup d'interceptions, effectivement beaucoup de duels gagnés, duels aériens gagnés. Ce but il fait énormément de bien. Ça pour le coup, c'est vrai que on peut, enfin évidemment il faut voir toute la photo quand on note, mais c'est vrai que on peut pas non plus omettre le fait que voilà, sur ces moments clutch, sur un coup de pied arrêté où le PSG est peut-être une des équipes de Ligue 1 les moins efficaces cette saison, bah lui il va aller te marquer un but hyper important. Voilà, c'est on va dire que c'est une note aussi enthousiaste parce que voilà, je pense que Ramos a été bien pire cette saison et là pour le coup j'ai trouvé qu'il était qu'il a pas été trop mauvais et qu'en plus il donne ce but de la victoire et ça lui donne des petits points en plus.
Ok, on aurait pu avoir exactement la même conversation pour Danilo si le ballon était passé à 2 mm à droite du poteau. Ça aurait été peut-être exactement le même match. Danilo qui a fait aussi pas mal de retours défensifs, il a contré notamment Nicolas Pepe et une autre reprise, je ne me rappelle plus le nom du joueur niçois. Mais il a été très efficace du coup des deux côtés. Enfin, efficace par de l'autre côté puisque ça a fait poteau, mais pas loin. Vas-y tonton, je te laisse noter Danilo.
Danilo, lui, par contre, j'y mets un bon 7,5, rock défensif, dur sur l'homme, superbe interception, comme je le disais tout à l'heure, où il a l'intelligence de la faire sur un genou et un pied glissé, au lieu de se lancer comme une fusée et prendre le risque de se faire dribbler. Ouais, en effet, il y a ce poteau où s'il marque, c'est clairement le patron des trois de derrière. Mais en même temps, défensivement, super efficace et en fait il confirme qu'il est le meilleur défenseur central parisien depuis le début de saison alors que c'est un 6 de formation. Donc c'est assez inquiétant même si c'est assez enthousiasmant en même temps. Mais ouais non, Danilo, 7,5 sur 10, un bon 15 sur 20 quoi. Vraiment très bon élève, félicitations du jury.
Vas-y, on va voir si Alex il met comme toi.
Tout pareil. Ouais. Franchement c'est pareil. Non mais pas mieux, je vais pas répéter ce qu'il a dit. J'aurais pas dit mieux. C'est ouais, c'était de quoi 7,5 pareil. Pareil.
Okay. Bon, on va attaquer le côté un des tops du match, Nuno Mendes, qui a perforé, qui défensivement a fait des retours. Avant d'attaquer le milieu de terrain, on va beaucoup parler du manque d'intensité dans les duels. Ça, c'est pas un problème qu'on a eu avec Nuno. Je l'ai vu très agressif, très entreprenant. J'ai quasiment rien à lui reprocher, à part un manque de lucidité en deuxième mi-temps sur deux, trois comptes d'affilée où il a fait des mauvais choix. Mais sinon, dehors de ça, je te laisse noter, tonton.
Nuno, on est sur un bon 8 sur 10. Un joueur, le rare avec Mbappé, qui depuis 2017 a progressé depuis son arrivée au PSG. Un joueur qui arrive habitué à jouer dans une défense à 5 sur un Morim, qui a plus un profil de piston, qui arrive au PSG, où on se demande s'il va être habitué à la défense à 4, qui a progressé défensivement, en tout cas depuis son arrivée, dans le duel, comme tu l'as dit, sur ses retours défensifs. Et même, t'as le seul regret que tu peux avoir en fait, de Nuno sur ce match, c'est quand il est dans la surface, à un moment, t'es devant ta télé, t'as envie de crier, mais tire Nuno, et t'espères qu'il va t'entendre dans le stade. Et au lieu de ça, il est un peu trop altruiste, ce poil un peu trop altruiste. Et je pense que s'il se met à tirer plus, il peut devenir un vrai piston buteur et apporter une solution supplémentaire offensivement, en tout cas.
Alex ?
Et bah pareil, un bon 8 bien tassé, tout ce qu'il faut. Oui, en fait, c'est vrai que Mendes, c'est un de ces joueurs qui a très très rarement déçu cette saison au PSG. Là, cette match-là, il fait encore partie des 2-3 meilleurs joueurs côté parisien. Voilà, par sa vitesse de percussion, par sa justesse dans le centre, il fait des centres pendant ce match que j'ai rarement vu au PSG, honnêtement, des puissants, précis et tout. Non, c'est vraiment, enfin moi je maintiens ce que je disais tout à l'heure à son sujet, pour moi c'est top 5 du monde à son poste et pas cinquième.
La punchline de Drake.
Voilà, donc voilà, donc un bon 8 qui fait plaisir pour nous.
Ok, monsieur Renato Sanchez sur le banc des accusés, du coup on va pas lui mettre de notes, à la place on va poser une question. Déjà, est-ce que c'est pas le plus gros flop de Campos? Parce que là, ça va être dur. Parce qu'il a eu quand même pas mal de flops. Donc, est-ce que c'est déjà le plus gros flop de Campos? Et est-ce que, entre guillemets, vous lui donnez une deuxième chance à la saison prochaine? Ou ça y est, c'est fini. Au revoir, Renato. Vas-y, tonton.
Je peux pas lui mettre de notes parce que Renato, tu sais, c'est un peu cet élève, il arrive à son contrôle et genre au moment de commencer le contrôle, il va voir la prof et lui dit « Madame, je suis pas bien, je vais vomir, est-ce que je peux sortir ?» Et la prof lui dit « Mais encore, c'est la 15e fois cette année. » Donc à un moment, tu peux pas donner une note à Renato, ce sera un peu moche. Mais en même temps, tu es obligé de te remettre en question. À un moment, je suis obligé de grandir et d'avoir de la maturité et tu te dis « Il a un long contrat, mais l'avantage, c'est que tu ne l'as pas payé cher. Désolé Renato, c'est pas de chance. On sait pas la faute à quoi c'est. T'as beaucoup de blessures, donc faut se poser des questions de d'où viennent toutes ces blessures quand même, tu vois. Donc, merci d'avoir essayé, mais je pense qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il essaye autre part. Et je lui souhaite de réussir autre part. Mais au PSG, ce sera trop compliqué.
Et toi, Alex ?
Moi, je suis un petit peu moins catégorique quand même sur Renato Sanchez. Effectivement, c'est... Il n'est pas aidé par son physique, mais ça n'a jamais été le cas, que ce soit au Bayern, que ce soit en Angleterre, je ne sais plus où il avait joué.
À Swansea City.
Que ce soit à Lille, où il a alterné entre les phases de brillance et les phases de blessure. Au PSG, pour l'instant, on l'a surtout vu blessé. On sait que voilà, ce garçon, c'est aussi beaucoup dans la tête. Ses blessures, elles sont autant mentales que physiques, et les deux sont intimement liés dans son cas. Après voilà, je sais pas comment ça se passe dans la cellule médicale du PSG. Je sais pas s'il est suivi par quelqu'un au niveau mental. En tout cas, ce serait des pistes à explorer. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a trop de talent pour qu'on abandonne et pour qu'on l'abandonne aussi rapidement. J'ai trop envie de le voir une saison complète avec le PSG. Et le voir essayer en tout cas d'exprimer son plein potentiel avec cette équipe là. Voilà, moi je reste persuadé que si c'est un joueur qui arrive à régler ses problèmes, il pourra retrouver son meilleur niveau. Mais en même temps, voilà, s'il continue à être blessé, bah ça va être juste. J'ai vu un tweet qui m'a fait rire tout à l'heure, c'est on assiste à l'Abu Dhabisation de Renato Sanchez. et je lui souhaite de pas. Je souhaite de ne pas finir comme Abu Dhabi, mais en même temps, Abu Dhabi, il a quand même toujours cette image de joueur hyper, hyper fort, hyper romantique. C'est un génie, quoi. Donc si on se souvient de Renato Sanchez comme un génie qui était tout le temps blessé, tant mieux pour lui. Mais autant qu'il ait réussi à exprimer son génie au PSG, quoi.
Bah, c'est fou. En plus, quand on a vu la semaine dernière son match contre Lyon, même s'il n'était pas exceptionnel.
Ouais, il était bon.
J'anticipais une grosse perf ce soir. Moi, j'attendais un grand match de sa part, parce que c'était clairement le meilleur des trois la semaine dernière. Mais là, comme
d'habitude... C'était parfait pour enchaîner pour lui. Bah, et oui. Le fait que ce soit titulaire, c'était bien. Pour le coup, moi, quand je l'ai vu titulaire, j'étais plutôt content, parce que j'avais envie justement de le voir enchaîner les matchs, de le voir enchaîner les perfs. Et en fait, il lui arrivait la même chose exactement que contre je sais plus qui, où il sort au bout de 15 minutes.
C'est Toulouse, je crois.
Contre Toulouse, ouais.
Ok.
Où il sort, il se pète tout seul, quoi.
Mais je sais pas si ça rejoint ta prochaine thématique, mais le problème, c'est qu'en fait, il évolue dans un profil de joueur qu'on est en train de viser, sauf que le joueur qu'on vise, il se blesse pas.
Arrête de spoiler, attendez, les gars, restez connectés, on va parler de Khéphren Thuram, et voilà. Aussi on va parler de Todibo aussi, parce que sa performance contre Mbappé, il faut en parler aussi. Ok, donc là, le milieu de terrain, on va parler de Vitinha, ou... non, on va parler de Fabian Ruiz, qui, première mi-temps, quand il est rentré, peut-être il n'était pas prêt à rentrer, peut-être mentalement, je ne l'ai pas trouvé top. Ah, toi, tonton, t'es témoin, pendant tout le match, j'ai pas arrêté de l'insulter. Mais en deuxième mi-temps, peut-être après la 60e, dans les combinaisons avec Messi, et notamment dans la conservation de la balle et dans la gestion de la transition, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a un moment où il y a eu un déclic et il a été plutôt très bon en fin de match. Tu as l'air de savoir pourquoi, tonton, je te laisse.
J'ai une théorie. En fait, c'est un changement tactique de Galtier à la 7e minute, donc du coup c'est tellement osé que même Fabian Ruiz n'était pas prêt. Mais à un moment tu doutes bien qu'à force de ne pas courir et de laisser les Niçois le faire, les Niçois ont commencé à se fatiguer, et quand un joueur il est fatigué, c'est vachement plus simple de l'éliminer et du coup d'arriver techniquement à faire ce que tu veux entreprendre.
Du coup tu lui mets combien?
Ruiz, match assez je lui mets un 5,5. Pas bon mais pas mauvais, pas incroyable mais pas dégueulasse, enfin sous courant très moyen. Ouais, non, mais je veux dire, tu sais, c'est, il y a des joueurs, genre, ils te laissent pas indifférent. C'est soit, tu sais, ils te déchaînent, soit ils te rendent haineux, soit ils te rendent amoureux. Lui, il me laisse complètement indifférent, je suis désolé.
Bon, on va voir si Alex est d'accord avec toi.
Un peu. Un petit peu. Non, mais c'est vrai que Fabian Ruiz, en fait, c'est un joueur que je trouve, qui dégage quelque chose, qui je trouve a une forme d'élégance dans la façon dont il se déplace, dans la façon dont il appréhende le ballon, on va dire. Mais en fait, il n'y a jamais cette petite étincelle, quoi. Il n'y a jamais cette petite étincelle. Moi, je sais pas, dans sa façon de bouger, il me rappelle Pastore, et en même temps, on dirait qu'il a un 33 tonnes attaché tout le temps derrière lui et qu'il est 4 fois plus lent, quoi. Donc, c'est forcément très, très handicapant. Moi, je sais pas, Fabien Ruiz, comme le disait Tonton, du coup, c'est un match très quelconque, c'est un match qui m'inspire rien. Voilà, il fait quelques interventions, parce qu'il vient quand même pour remplacer Renato en sentinelle, donc il était très défensif. Mais il tente pas plus, on voit pas beaucoup devant, on voit pas beaucoup faire des passes qui cassent des lignes, on voit pas beaucoup lancer des attaques. C'est un peu à l'image de sa saison, quoi. C'est-à-dire qu'il a plein de qualités qu'on voit pas beaucoup, quoi. Donc un peu dommage. Voilà.
Ok, là on va passer aux deux autres, parce que je trouve vraiment que peu importe tout ce que vous avez dit sur Fabian Ruiz, pour moi ça a été quand même le meilleur des trois. Là on va attaquer les deux autres, parce que là franchement on va attaquer par... Je ne sais même pas si c'était lequel le pire. Parce que Vitinha, il y a un problème, c'est qu'il était toujours en retard. Il n'attaquait pas la personne, les joueurs en face, il les empêchait pas de centrer. Il n'empêchait pas les passes en retrait de l'Inissois, ils ont frappé à l'entrée de la surface au moins 3 ou 4 fois, il était toujours en retard, toujours en décalage. Tu prends l'autre côté offensif, il lâche pas le ballon, il y a un moment où il fait une contre-attaque, au lieu de lancer Mbappé, il garde le ballon et il le perd, il y a Khéphren Thuram qui revient sur lui. Mais que ça soit offensivement ou défensivement, c'est un joueur qui me déçoit énormément. Zéro personnalité, ses choix, ils sont neutres, j'ai l'impression qu'il sert à rien, ce joueur. Qu'est-ce que t'en penses, tonton ?
Tu vois, autant Alexandre tout à l'heure, il a parlé de Renato Sanchez en disant que c'était un joueur fragile et qu'il fallait s'inquiéter pour lui s'il était suivi ou non psychologiquement parlant. Moi, je m'inquiéterais plus pour Vitinha, qui est un joueur qui clairement a l'air de transpirer le manque de confiance et la peur. Depuis le mois d'octobre, il est de moins en moins bon. Tu le vois de moins en moins faire ce qu'il faisait au début de saison, c'est-à-dire se projeter, proposer deux solutions. Il fait de plus en plus des choses sans prendre de risques. Et même quand tu le vois devant le but, un Vitinha qui est en confiance, il doit avoir mis au moins 5 buts cette saison. Et il n'a toujours pas marqué. Et à chaque fois que tu vois les buts qu'il rate, c'est pas parce qu'il n'est pas bon, c'est parce qu'il... Tu dis, mais il est clairement en manque de confiance, ce gars. Donc, moi, je me pose la question de... D'un côté, il est jeune, il était prévu pour être remplaçant en arrivant, il était censé y avoir un titulaire de haut niveau à son poste, et ça n'a pas été le cas. Est-ce que je lui laisse quand même une deuxième saison d'adaptation? Je pense que ouais, mais là, je lui mets un 4, et je peux pas lui mettre une bonne note ce soir.
T'es gentil, vas-y Alex.
Ouais, je suis gentil, ouais.
ouais, pareil, un 4, 4, 3,5. Ouais, Vitinha, je suis assez d'accord sur le fait qu'on le voit pas assez, enfin il dépasse pas assez sur le jeu. Je trouve que en début de saison il était vraiment très très bon quand il était à côté de Verratti dans cette espèce de 3-4-1-2 là, 3-4-2-1, peu importe. Là c'est vrai que sur ce match en fait, il y a rien qui me saute aux yeux en fait sur son match. Il y a pas grand chose quoi. Il est assez neutre quoi, assez quelconque. Je sais pas. Franchement, je saurais même pas comment l'analyser son match. Il m'a pas fait une grande impression honnêtement. En tout cas, pas suffisamment pour qu'on se dise qu'il a pesé sur quoi que ce soit. Et en même temps, voilà, depuis début 2023, depuis la Coupe du Monde, il est un peu comme le reste de l'équipe quoi. Il est un peu à côté de ses pompes, donc c'est. C'est dommage, mais oui, après, voilà, on va pas remettre en question. C'est un jeune joueur. C'est sa première saison vraiment au PSG. Il est titulaire, effectivement, depuis le début de la saison. On verra la saison prochaine s'il arrive à confirmer.
Ok, Carlos Soler, j'attends ton tour depuis le début, parce que je suis prêt pour toi. Alors, je vais te donner un plus. Tu as énormément couvert les montées de Nuno Mendes. C'est la seule chose que je vais t'accorder dans ton match. Tous les contres qu'on a pu faire, il les a gâchés. Il était dégueulasse techniquement. Il y a des moments où il a récupéré le ballon, il le reperdait direct derrière. Il n'y a aucune passe qu'il a fait en avant pour Mbappé ou pour Messi qui arrivait à destination. C'était absolument dégueulasse. Et pourtant, quand Campos va chercher Ruiz, Vitinha et Soler, du coup, tu te dis, ok, par rapport à l'année dernière, on va être plus fort techniquement. Voilà, parce qu'on avait des Gay et... des trucs comme ça, qui étaient forts peut-être dans l'impact, mais techniquement, c'était nul. Mais là, tu te rends compte, t'as des joueurs normalement en formation espagnole, mais c'est pas possible. Je suis désolé, je sais pas si quelqu'un dans les commentaires, vous pouvez sortir des stats de passes réussies de Carlos Soler, c'est terrible. C'est absolument terrible. Tonton, je te laisse commencer.
Alors, tu veux le pourcentage passe réussi, tu m'as demandé ce soir?
Ouais, mais tu vas dormir. Bah, vas-y, Alex, commence pour moi qui regarde.
Vas-y, Alex. 90%. Il a réussi, j'ai sous les yeux, là, il a 41 passes, 37 réussies.
En latéral?
Non,
pas en tout, quoi.
Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il a tout raté? Parce que c'est des stats de passes. C'est des stats de passes derrière ou des passes de dark.
Comme l'a dit Alexandre, c'est les passes clés, les passes les plus visibles qui ratent. Donc celles où vraiment, avec le choc, le reste, il fait... Bah, il fait du solaire, quoi. Tout autre. Je veux dire, c'est assez accablant le concernant. Le seul truc drôle le concernant, c'est qu'il offre une montagne de jeux de mots le concernant. Tu peux le vanner incessamment à chaque match. Système solaire, solaire pleure, c'est l'armée des flammes, pour ceux qui ont la ref. Non, à un moment, il était censé être le 10 ingrat qui fait le taf que Messi et Mbappé n'allaient pas faire. Comme tu l'as dit, il compense les montées de Nuno. Mais à un moment, il est censé être le 10, il est censé être celui qui alimente le milieu et l'attaque. Il est censé avoir, mais tu sais, comme quand il jouait dans un 4-3-3 Valence, être ce milieu un peu plus offensif que les autres et faire ses passes utiles. Et le pire, c'est qu'à un moment, il a failli nous refaire le coup de « je refais une prestation immonde, mais je marque quand même ». Et ça, il est très très fort pour le faire. Mais non, ce soir-là, il ne s'en sortira pas comme ça. On va mettre un bon 2 sur 10 à Carlos Soler. Carlos Solis, on va continuer les surnoms hein, et on va s'amuser à continuer à le vanner parce qu'il nous tend la perche pour qu'on le fasse. Hein. Je suis désolé. Mais...
Vas-y, Alex.
Ouais, tout pareil, un match à l'image de sa saison, c'est-à-dire pas ouf. En fait, c'est vrai qu'il est, constamment dans un rythme différent de ses petits camarades, quoi. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu terrible. Moi c'est vrai que je commence à en avoir un peu un petit peu marre de toutes ces recrues qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Italie, qui sont, j'ai l'impression, pas du tout formatées pour un championnat comme la Ligue 1. Le plus bel exemple restant peut-être Léo Messi. Voilà, les mecs, quand ils arrivent en Ligue 1, ils sont cramponnés par des mecs qui font 20 cm et 35 kg de plus qu'eux. Et Carlos Soler, il rentre en fait dans cette catégorie-là, où en fait, c'est un joueur qui, je pense, serait... si de... enfin, c'est un peu comme Sarabia, par exemple. Si demain, il retourne en Serie A, ou... non, pardon, en Liga, ou s'il va en Serie A, ou je ne sais où, il va sans doute être très très fort. Mais là, en fait, au PSG, j'ai l'impression qu'il n'a jamais réussi à... Il n'a pas réussi à passer ce step physique, pour l'instant, qui lui permettrait d'avoir un peu plus d'impact, et de faire évoluer son jeu. Ça a été le problème de beaucoup de joueurs, hein, qui sont passés par le PSG ces dernières années, hein. Le fait de peiner physiquement dans le championnat de France. Carlos Soler, qui en plus de ça, je trouve, a un point commun avec Hugo Ekitike cette saison, c'est qu'il rate à peu près tout ce qu'il entreprend. Des contrôles bêtes, des passes pas compliquées à faire. Voilà, mais c'est aussi une question de confiance, je pense. Carlos Soler, ouais, 3, 2,5. Il n'a pas été très bon ce soir. Moi, j'aurais préféré voir Zaïre Emery, quoi. Mais bon, c'est toujours le même débat. Je suis désolé, je suis un petit peu long sur cette note, mais je trouve que c'est important quand même de le dire. Pour moi, des joueurs comme ça qui n'arrivent pas à se sublimer, à élever un peu leur niveau de jeu, la concurrence, elle doit venir par le bas, parce qu'en fait, ils pourront jamais aller chercher des mecs titulaires indiscutables au PSG, quoi. Ils pourront jamais les chercher parce que c'est des mecs qui ont des qualités, qui sont bien meilleurs qu'eux, qui ont des statuts, etc. dans cette équipe. Si la concurrence ne vient pas d'en bas, jamais les mecs qui vont être incités à être meilleurs, quoi. Aujourd'hui, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Renato Sanchez, des mecs comme ça, Vitinha, ils sont tous à peu près au même niveau. Et ils sont tous pas inquiétés ni en haut ni en bas, quoi. Ils savent tous qu'ils vont jouer leurs 20 matchs par saison. Bon. Voilà. Soler, franchement, la saison qu'il fait, il marque 4 buts, mais bon. C'est 4 buts bizarres dans des matchs où il n'a pas été bon, quoi. Donc je sais pas, moi c'est son match, en fait ça me frustre, parce que vraiment c'était une bonne recrue sur le papier, hein. Comme Sarabia, hein. C'était pareil que Sarabia, c'était une bonne recrue sur le papier, mais une fois que tu arrives sur le terrain, c'est plus compliqué, quoi. Donc voilà.
Je voulais juste répondre à Mick rapidement, qui nous pose une question. Franchement, il n'y a pas photo, Mick. La Ligue 1, elle est 10 000 fois plus physique que la Ligue 1.
Il n'y a absolument pas
photo.
Non, mais ça c'est... Mais plein de joueurs qui disent, même par rapport à la première ligue, c'est pas beaucoup moins physique que la première ligue. Hein. Franchement, la Ligue 1, c'est un championnat qui est hyper physique, et les mecs qui ont joué dans les deux championnats, ils te le disent, c'est dur la Ligue 1. C'est très dur. Encore une fois, je vous dis, franchement, Messi, il se fait body par tous les défenseurs qui croisent, quoi. Ça n'arrivait pas en Ligue 1, c'est tout. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça marche pas au PSG. C'est que physiquement, il va dire que c'est Messi, quoi, mais vu qu'il n'arrive plus à effacer les mecs sur un crochet dévastateur sur des petits espaces, le mec il a plus du tout assez de physique, quoi. Juste, m'excuse messieurs, je dois juste me lever de nuit parce que j'ai cherché mon chargeur d'ordinateur parce que j'ai perdu
plus de batterie. Il n'y a pas de souci.
Mais je vous laisse poursuivre.
À tout de suite. Du coup, vous êtes 275. Je pense que vous êtes resté avec nous pour connaître les notes de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Surtout, je vois beaucoup de gens qui sont impatients de noter Kylian Mbappé ce soir. Donc on va commencer peut-être avec Messi, on va garder le suspense pour Kylian. Messi, tonton, tu lui donnes quoi comme note ce soir, et t'as pensé quoi de son match?
Compliqué, parce que avec le ballon, il fait des choses que si les autres joueurs ne gagent pas, il va finir avec des passes décisives. Donc compliqué. Il marque, mais moi, c'est pas son but que je vais retenir. Moi, c'est... Il n'a pas spécialement fait le pressing, parce que c'est pas ce qu'on lui demande de toute manière. T'as eu du mal à le voir. Par contre, pour le peu de fois qu'il a eu des ballons, il a tenté de les bonifier. Donc, je vais lui mettre un 6. Mais il a fait mieux au PSG, même s'il a fait beaucoup pire. Mais 6, non, allez, 5,5. 5,5 quand même. Parce que 6, après, ça va presque être une bonne note. Donc, je vais lui mettre 5,5, mais d'un côté, il a été vachement plus décevant cette saison quand même. Mais ça croque vachement devant pour terminer ses occasions aussi quand même ce soir.
Écoutez Moussa, s'il vous plaît, vous êtes 275 et il y a 89 likes. Les gars, c'est pas la moyenne, je suis désolé, vous pouvez pas faire ça. Si vous êtes là, c'est que vous likez et que vous aimez ce que vous êtes en train de regarder. Donc mettez un like, s'il vous plaît. Vas-y, je te laisse continuer, Alex.
Ouais, il met un but, mais moi il me saoule, donc j'ai pas envie de le noter. J'ai pas envie de le noter bien. Il me gonfle, j'en ai marre de Messi, je vais lui mettre 5 par principe. Voilà, c'est juste, il a marqué. Je suis hyper heureux pour lui, vraiment. Je lui souhaite que du bonheur, mais je fais une overdose de ce joueur, j'en ai marre. Voilà. Mais c'est terrible, hein. C'est dur à dire, hein,
Je te
ouais, non.
comprends.
Et par ailleurs, voilà, on a très bien vu que à partir du moment où le PSG a commencé à être un peu moins bien et à être sous pression par Nice, on l'a plus trop vu, hein. On l'a plus trop vu. C'est un joueur qui, moi je trouve que ses statistiques, enfin, reflètent pas vraiment sa saison, quoi. Il met 14 buts, 14 passes D. C'est le joueur le plus décisif sur les buts de passes D au PSG cette année. Et pourtant, moi j'ai l'impression que c'est que contre des petites équipes et que quand le score est favorable au PSG, quoi. Mais bon, ça c'est. Enfin là, bon, voilà, il double le score ce soir, encore une fois, très content pour lui, hein, vraiment. Mais à part ça, moi je l'ai pas trop vu et ce que j'ai vu, ça m'a pas marqué, donc ouais,
Ok, bah du coup vous êtes resté, on a 45 minutes de live, je pense que vous vouliez qu'on note Monsieur Kylian Mbappé, ça va arriver. Alors, avant de vous donner la parole, je ne sais pas ce qui se passe avec Kylian Mbappé, mais c'est terrible. Franchement, on m'a accusé 10 millions de fois de le défendre sur cette chaîne. Là, ce qui se passe là, c'est indéfendable. Ça fait plusieurs matchs. Il sert à rien. Il est complètement nul en finition. Il n'y a pas d'autre mot. Il bouge pas, il bouge pas, il n'y a pas de mouvement, il marche sur le terrain, tête baissée, il regarde la pelouse, on dirait qu'il n'a plus envie d'être là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, je pense que c'est avant tout mental ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas s'il est déçu, s'il en a marre de travailler pour les autres, il se dit qu'il n'y a que des bras cassés autour de moi, j'ai plus envie, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Mais franchement, aujourd'hui, ce soir, je lui mets un 2 et je pense que je suis même gentil. Vas-y, tonton.
Il a joué ce soir? Non, c'est une blague, mais je veux dire, pas le meilleur Mbappé qu'on a vu, mais c'est pas la première fois. Ça commence à enchaîner, mais comme tu dis, il y a peut-être un malaise, mais peut-être que c'est une période de creux, peut-être qu'il va revenir un peu plus tard, mais j'ai aussi cette impression, c'est Basto qui en parlait en live cette semaine, en début de semaine, il disait. Il faut vraiment regarder les matchs en équipe de France et au PSG et la différence des matchs où quand le PSG et l'équipe de France jouent à 4 derrière et à 5, ce soir on a joué à 5 derrière et Mbappé n'a pas été bon. Donc est-ce que ce système n'est pas fait pour Mbappé? Est-ce que Mbappé est-il un joueur de système? C'est une excellente question, mais il y a clairement un manque de confiance, surtout quand tu vois la dernière action où il arrive à tirer au-dessus. Comment tu peux à cette distance mettre assez de force dans un ballon pour qu'il arrive au-dessus du but sans même toucher la barre. C'est incroyable. Je pense que le ballon est atterri chez mon oncle qui habite à Mougins, pas loin du stade. Je lui demanderai s'il a retrouvé le ballon. Non, mais c'est incroyable. Là, c'est un manque de confiance qui est criant et une attitude qui est pas folle. Tu combines ça à ses propos sur Internet cette semaine. Moi, je veux bien que tu aies de la bouche sur les réseaux, mon petit Kiki, mais par contre, faut avoir les performances sur le terrain pour se le permettre, quoi. Et là, c'est pas le cas.
Alex, je crois qu'il va être plus gentil que toi, je le sens. Il va être plus
Non,
clément, non?
ouais, effectivement, enfin, après, en fait, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que la différence entre l'équipe de France et le PSG, c'est pas une différence de système, hein, c'est une différence de qualité. Hein. C'est une différence de qualité de joueur autour de lui. Il est beaucoup mieux entouré en équipe de France. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ouais, non, je sais pas expliquer sa mauvaise passe avec le Paris Saint-Germain. Ça fait 3 matchs qu'il n'a pas marqué du coup. Bah, les 3 matchs où. Non, 4 matchs, pardon, je dis des bêtises. Non, pardon, 3 matchs. Rennes, Lyon et Nice. Donc il marque pas. Là ce soir, il tire une fois au but, je pense, c'est la frappe au-dessus. Mais à part ça, je suis pas sûr qu'il tire au but. C'est quand même sacrément, je vais pas dire inquiétant, mais c'est pas souvent des matchs comme ça d'Mbappé. Puis alors 3 de suite, c'est quand même un peu dur. Bon, pour sa note, bon, honnêtement, on n'a pas vu quoi. Casper sur 20, y a pas de souci.
Draxler
Voilà,
sur
enfin,
20.
je sais même pas le noter. Ouais, Draxler sur 20, je sais même pas le noter. Je sais même pas le noter. En fait, il a pas existé ce soir. ce qui est dommage. En fait, c'est marrant parce que tu disais tout à l'heure, enfin, tu disais en conclusion de ton argumentaire, tu disais c'est bien d'avoir de la bouche sur les réseaux, mais il faut avoir les performances sur le terrain pour les baquer. D'habitude, il ouvre grand sa bouche et puis après il marque 4 buts, quoi. Donc là c'est pas le cas. Voilà. Moi, en plus, ça m'embête parce que je l'ai sur MTG, donc ça me saoule. Il marque plus. voilà. Mais bon, ce match, il n'a pas été bon. Voilà. Contre Lens, alors sachez que, statistique intéressante pour vous, messieurs, Lens est la seule équipe en France contre laquelle il n'a pas marqué.
Ah, le challenge. S'il vous plaît, faites passer le mot à Kylian Mbappé. Dites-lui qu'il est incapable de marquer contre Lens. S'il vous plaît, faites passer l'information.
Il les a affrontés trois fois avec le Paris Saint-Germain. Si je dis pas de bêtises, 0 victoire, 0 but. Donc il y a un rendez-vous la semaine prochaine entre Kylian Mbappé et le Racing Club de Lens. S'il a envie de marquer la saison du Paris Saint-Germain en positif, c'est maintenant. Sur Ligue des Champions, c'est fini, mais au moins qu'il aille marquer un ou deux buts décisifs pour le titre. Voilà. Mais bon, non, Mbappé n'a pas été bon. 2,5, 3.
Non, on va pas parler de la banderole, en vrai ça sert à rien. Par contre, on va noter Galtier. Puisque Galtier, on a pris l'eau quand on est passé en 4-3. Enfin, quand ils sont passés en 4-3-3 côté Nice. J'ai pas l'impression qu'il a fait beaucoup d'ajustements. Premier changement, c'est quoi? C'est 85e quand il fait rentrer Zahir Emery. Il fait rentrer Shadai avant. Il fait rentrer Shadai avant.
À quel poste?
À cause de blessure. Mais à cause de blessure, c'est pas un changement tactique. C'est Nuno Mendes, il est blessé, il le sort. Le premier changement tactique, entre guillemets, qu'il fait, c'est Zahir Emery et vas-y, il reste 10 minutes de jeu. Est-ce que Galtier aurait pu faire quelque chose ou moi aussi, pour le dédouaner un petit peu, quand je regarde la feuille de match et je regarde les remplaçants sur le banc, je sais pas qu'est-ce que tu peux faire avec ça non plus. Donc vas-y, tonton, je te laisse noter Galtier.
Ouais, c'est vrai que quand tu regardes le banc, quelle autre solution il avait? On aurait pu tenter Letellier piston gauche à la place de Nuno Mendes. Non, c'est vrai que blague à part, tu te retrouves obligé de finir le match avec 4 défenseurs centraux. C'est beaucoup trop. Et en même temps, tu vas pas demander à Ousni, à Ekitike, à Garbi d'occuper le poste de piston gauche. Ou à la limite, tu essaies de te recaler sur une espèce de défense à 4 où tu mettrais Marquinhos arrière droit, Hakimi arrière gauche. Comme ça, tu peux faire rentrer Garbi et le mettre ailier. Mais c'est trop compliqué encore tout ce micmac. Donc du coup, Galtier n'a pas su réagir. Galtier a-t-il pu réagir de toute manière? Autant j'aime bien tirer sur lui gratuitement. On aime tirer sur Galtier. Est-ce qu'on peut ce soir? Oui, on peut quand même. Quand on voit la rentrée de Zahir Emery à la 88e, on a le droit quand même de lui dire que t'es pas très cool quand même, Christophe. T'aurais pu nous faire un peu plus plaisir. Donc je vais lui mettre un 4 à Christophe. Et je vais pas être plus méchant que ça, ni plus gentil.
Alex?
Là, j'ai le banc du PSG dans les yeux. Donc, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs. Tu as 2 gardiens. 1, 2, 3, 4 Titi. Et 2 recrues cet été. Voilà. Tu grilles ton Fabien Ruiz qui rentre à la 10e minute. Et Titi qui ne rentre pas. Et après, en fait, tes solutions, c'est les jeunes. Sauf que Galtier, il a pas l'air amoureux des jeunes cette saison. Qu'est-ce qu'il peut faire à un moment donné moi après j'en reviens à ce que je disais en début d'émission, c'est-à-dire là où Digard a eu l'intelligence de s'adapter quand il a vu certains écueils dans son organisation tactique, Galtier lui a, je pense, pas su identifier ses faiblesses là, ou en tout cas il n'avait pas la flexibilité pour les corriger. Et puis en même temps cette profondeur d'effectif qui est absolument effrayante. Donc voilà, oui effectivement, peut-être que Warren Zahir Emery, le faire rentrer à 89e minute, c'est peut-être pas ouf. Je pense aussi que à 2-0, donner un peu de temps de jeu parce qu'il fait que 3 changements, hein, donner un peu de temps de jeu à Ekitike, donner un peu de temps de jeu à Garbi qui a été très bon contre Lyon. Voilà, ça aurait pas été interdit. Bah, quelle note tu veux lui donner? Ni bon ni mauvais, le PSG gagne, en même temps il est pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait pour grand chose. 4.
Ok. Bon, on a fait le tour des joueurs du Paris Saint-Germain. On va juste parler de Khéphren Thuram, chose que vous attendiez depuis très longtemps, je vois dans le chat. Khéphren Thuram qui a beaucoup porté le ballon, qui a fait très très mal en portant le ballon. Ses projections ont été très 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 néfastes pour notre milieu de terrain. Du coup, le fait que le Paris Saint-Germain se fait manger par tous les milieux de terrain qu'on a affrontés récemment, est-ce que Khéphren Thuram a fait un si bon match que ça, ou est-ce que notre milieu il est nul? Parce que sinon, à ce moment-là, si on prend chaque joueur qui marche sur le milieu du Paris Saint-Germain, bah à la fin, on recrute 20 milieux de terrain cet été quand même. Donc, juste pour remettre ça en contexte, est-ce que c'était vraiment une grosse perf de Khéphren Thuram, ou est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui l'a laissé jouer? Vas-y, tonton.
Khéphren Thuram, en fait, c'est marrant. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, et finalement, je me suis abstenu de le dire. Il a le profil qu'on attend de Renato Sanchez, sauf que lui ne se blesse pas autant que Renato Sanchez. Donc, la question va se poser de... Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter avec Nice un échange de Renato Sanchez plus Frick pour essayer de faire baisser la note, pour faire venir Khéphren Thuram? Après, il y a quand même des choses à mettre en avant. Tu as raison. Le milieu du PSG, c'est clairement pas la forme. Et si on se met à recruter tous les joueurs qui ont été bons contre le PSG, on se termine avec un Sergueï Semak au PSG pour ceux qui ont la ref. Donc à un moment, je suis d'accord avec toi, il faut faire attention à ne pas recruter n'importe qui. Cependant, est-ce que Khéphren Thuram a un profil de jeu qui est intéressant pour le PSG? Ben en fait, il a le profil de jeu qu'on attend d'un Renato Sanchez, sauf que lui ne se blesse pas. Donc, je pense qu'il pourrait être intéressant pour le PSG. Par contre, attention, je préviens et je répète quelque chose que j'ai déjà dit dans un autre live. Ce n'est pas parce que Khéphren, il est grand et noir que ça va être un bon 6. C'est un 8. Et c'est un 8 qui se projette. Donc, si tu me dis que tu le mets dans le rôle du milieu qui se projette et qui apporte offensivement, ça m'intéresse de recruter Khéphren Thuram. Mais c'est encore un joueur jeune, perfectible et qui doit progresser, et c'est pas non plus une référence européenne non plus encore, pour être honnête.
Et toi, Alex?
Bah, c'est un joueur qui est plein de qualité, qui est plein d'envie. D'un côté, j'ai envie de vous dire, demain, je le prends au PSG, vraiment, je mets de l'argent à moi s'il faut. Et puis d'un autre côté, je sais le mal que ce club a pu faire à des joueurs d'un talent extraordinaire. Donc il y a une partie de moi qui a très envie de le voir briller au PSG, et puis une partie de moi qui a pas envie de le voir se cramer au PSG. Donc je suis un peu partagé. Après, le truc c'est que ça fait 2 ans qu'on se dit que le milieu de terrain c'est un chantier. On a recruté Wijnaldum qui devait être la solution à tout, il l'a pas été. On a recruté cet été Vitinha, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Renato Sanchez qui devait être la solution pour apporter de la qualité, de la quantité. Bah au final ça n'a pas été. À un moment donné je sais plus quoi faire, quoi. Khéphren Thuram ce serait une bonne solution, enfin ce serait une bonne idée dans le sens où c'est un joueur français, jeune, international. Plein de qualités, qui a un profil un peu physique, profil de milieu box-to-box que cherche Luis Campos. Mais voilà, ne réussit pas au PSG qui veut. Et j'aimerais le voir réussir au PSG. En même temps, c'est-à-dire que même les meilleurs joueurs, le meilleur joueur de l'histoire du foot. Voilà, Khéphren Thuram, pourquoi pas.
Alors moi je vois que la plupart d'entre vous êtes vous avez kiffé la performance de Khéphren Thuram. Moi je voulais parler de quelqu'un d'autre que je suis depuis plusieurs matchs, voire peut-être plusieurs saisons, Jean-Claire Todibo. Vous en avez pensé quoi? Parce que moi personnellement ça fait des années que je trouve qu'il est en constante progression. Là, il a été appelé parce que Saliba, il s'est blessé, je pense. Mais Saliba, c'est peut-être plus l'expérience Première Ligue qui fait qu'il a un avantage dessus. Mais franchement, Todibo, défensivement, pendant toute la saison, je l'ai trouvé énorme. Il a ce petit défaut que Kimpembe a, où il y a des moments où il a des sauts de concentration. Mais franchement, défensivement, en 1 contre 1, en la gestion de la profondeur, franchement j'ai pas grand chose à lui reprocher, hein. Je te laisse poursuivre, tonton.
Alors c'est pas le premier que j'irai chercher, j'ai rien contre lui, et si tu me dis qu'on recrute Todibo en défense, je vais pas non plus tirer la tronche. Cependant, il y a d'autres profils, d'autres joueurs plutôt, que j'irai chercher avant de chercher Todibo, comme Saliba ou comme Konaté, mais c'est des pistes qui seront très très dures et on n'a pas la certitude. Ouais, c'est, voilà, c'est ça, j'allais dire. On n'a pas la certitude de pouvoir les faire. J'allais dire, un Saliba, il n'a pas encore prolongé Arsenal. Il est en fin de contrat en 2024. Si tu étais malin, tu aurais déjà commencé à attaquer la piste. Ibrahima Konaté, lui, ben, il est en train de s'imposer. Il est en train de devenir le meilleur défenseur de Liverpool. Donc lui, ça va être compliqué de dire à Liverpool, est-ce qu'on vous débarrasse d'un tel joueur? Ils vont dire, bah non, c'est en train de devenir notre meilleur défenseur. On serait quand même assez fou de se débarrasser de lui. Donc si tu veux les convaincre, il faudrait mettre une offre qui est irrefusable. Et à ce moment-là, est-ce que tu pourrais te permettre de le faire? Donc, je ne suis pas contre Todibo, mais ce n'est pas le premier que j'irai chercher non plus. Mais si on recrute Todibo, je ne vais pas non plus trop tirer la tronche.
Et toi, Alex?
Bah, pour prolonger un peu ce que tu disais, c'est vrai que y a des joueurs qui sont meilleurs que lui aujourd'hui. Moi, un joueur qui me ferait très envie au PSG, par exemple, c'est Upamecano.
En plus, bon gars
de la région parisienne, bon gars du 91. Si je dis pas de bêtises, il est de l'Essonne, je crois, Upamecano. Je sais plus si c'est 91 ou 93, je dis peut-être une bêtise. D'ailleurs, je vois dans le chat, excellente remarque de Yacine, qui dit que NDK sera aussi libre à la fin de la saison, donc ça peut être une excellente solution. En fait, moi, je pense que Todibo, ça peut être une bonne solution à moindre frais pour étoffer un peu cet effectif en quantité et en qualité. Quelqu'un me dit du 77 dans le chat. Je vais vérifier.
Je vais regarder en même temps, continue.
Ok. Merci beaucoup. Et en fait, ça peut être une bonne solution pour étoffer l'effectif à moindre frais, sachant qu'il y a aussi Skriniar qui va arriver. Il faudra un autre défenseur central. Si, effectivement, la piste NDK est très intéressante, parce que voilà, c'est un jeune défenseur français, francilien en plus, qui peut remplir un peu toutes ses cases, physique, rapide, etc. Todibo, c'est aussi une bonne solution. Je trouve qu'il a fait un bon match. Voilà, c'est effectivement pour moi un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 depuis la saison dernière. Ça peut être une bonne recrue. Comme tu disais, c'est pas le premier que j'irai chercher. Peut-être pas forcément d'accord sur Saliba, qui en plus a un passé marseillais, et donc que je vois très mal au PSG. Qui en plus pour une fois s'installe bien à Arsenal, et je pense qu'il voudra rester là-bas. Todibo, ça peut être une solution, et j'imagine que de toute façon, si c'en est une, elle a déjà été étudiée par l'équipe de recrutement du Paris Saint-Germain. Enfin, j'espère en tout cas.
Ok, bah, du coup j'ai vu né à Évreux, et il a joué aussi à Évreux pendant qu'il était jeune, donc j'imagine qu'il vient de là-bas.
Oui, c'est ça.
Il est formé à Valenciennes, selon Ken.
C'est ça. Alex, tu as des trucs à promouvoir. En même temps, tu as un article qui est sorti récemment dans Le Parisien ou à SoFoot que tu veux mettre en avant.
Non, pas spécialement. Je travaille toujours régulièrement, mais j'ai rien de spécial à promouvoir en ce moment. Ça, je vous remercie.
Pas de souci. Bah, y a un d'entre vous deux qui va dire quelque chose sur le match, on s'arrête là, ça va. Il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert.
Merci à tous d'avoir été patients et d'avoir resté aussi longtemps malgré une performance aussi peu enviable.
Bah écoutez, sur ces bons mots, on va se quitter.
Peut-être un petit truc quand même pour rappeler que le PSG affronte Lens la semaine prochaine. Et que si malgré la victoire, il faut rester extrêmement négatif comme des bons Parisiens que nous sommes, et que si le Paris Saint-Germain affiche ce niveau de jeu et ce niveau d'envie dans le jeu contre Lens, ça fait plusieurs jours que je le dis maintenant, le PSG va se faire bouffer en fait. Le PSG va se faire bouffer, et je pense que ça peut être un bain de sang, ça peut tourner au bain de sang si Lens décide de passer la seconde et que le PSG réagit pas. Donc là, franchement, tu gagnes ce soir. Faut répéter à quel point ça tient à peu de choses. Hein. Une barre transversale, 4 mm sur la frappe de Dante, une autre barre transversale sur Danilo, Donnarumma qui fait des arrêts extraordinaires. Lens, c'est un adversaire compliqué. Ils sont qu'à 6 points. Le titre, il n'est pas acquis. Voilà. Franchement, la semaine prochaine, ça va être un match extraordinaire, je pense. J'espère que le PSG sera au rendez-vous, parce que franchement, vu la saison qu'on se cogne, je pense qu'on mérite de voir un grand grand match du PSG. Quoi.
Bah, on pourrait se dire que l'avantage, c'est que ce sera à domicile, mais bon, ça nous a pas aidé.
J'étais au PSG Lens la saison dernière, quand tu prends un but de Corentin Jean à la 88e minute, le domicile, c'est pas un avantage. Hein. Et pourtant, on a vu un des plus beaux buts de Messi sous le maillot du PSG ce jour-là, et ça n'a pas été un avantage non plus. Hein. Donc, non, s'il n'y a pas d'avantage, il n'y a rien du tout. Je pense qu'en plus, tout le monde, déçu les supporters, je doute qu'il y ait une ambiance extraordinaire, parce que tout le monde tire la gueule en ce moment autour de ce club. Donc voilà.
Bah après, je pense quand même que le plus dur a quand même été fait. Dans le sens où il nous reste un gros match et on a quand même 6 points d'avance. Je ne surestimerai pas le Paris Saint-Germain face aux petites équipes qui vont jouer la relégation quand même. Ça risque d'être un peu compliqué. Mais on a fait les plus gros matchs sont faits.
Le plus dur sera fait après le match contre Lens. Si tu perds le match contre Lens, il n'y aura que 3 points d'écart.
Mais je crois que
si tu gagnes le match contre Lens, effectivement, tu fais 9 points d'écart, t'as 9 points et il te reste un boulevard de 6 journées avec que des équipes de milieu et de bas de tableau à taper, ok, là t'auras fait le plus dur. Mais dire que t'as fait le plus dur alors que t'affrontes ton dauphin qui a 6 points la semaine prochaine et que tu montres aucun signe d'amélioration dans ton jeu depuis 3 mois et demi, c'est impossible de dire ça. On peut plus se permettre d'avoir des certitudes avec cette équipe.
Non, mais après, je te disais ça justement par rapport au calendrier de la suite, où nous, on va affronter des milieux de tableau, voire les relégables, qu'on sait qu'il va y avoir un Lens-Marseille et que du coup, il y en a forcément un des deux qui va y laisser des plumes. Donc ça peut être plutôt une bonne chose, notamment.
Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis qu'on pourra vraiment souffler s'il y a trois points en plus au classement pour le PSG dimanche prochain.
Bah, si on se met entre les deux, on fait un petit match nul. Non, bon,
si on arrive. Je sais pas si ça arrangera qui que ce soit pour le coup.
Marseille, distance, là. Marseille, ouais, du coup.
Bon. Ouais, c'est Marseille le grand gagnant si on fait match nul. Ouais.
Pour le coup, Marseille sera bien.
Ouais. Et là, on nous dit Lens s'est fait balader par Strasbourg, un motif d'espoir peut-être.
Ouais, mais tu sais, Paris, ils sont baladés par un peu tout le monde et n'importe qui en 2023. Bah,
ils viennent de se faire balader par Nice et ils ont gagné, donc ça veut rien dire.
Non, mais cette saison, il faut le rappeler, je veux dire, en 2023, on est sur un record de défaites qui n'a pas été battu depuis 2001, les gars. C'est vraiment, c'est important de se rappeler ça, comme ça nous évite d'être trop confiants. Alors, on va éviter de devenir une chaîne de dépressifs aussi, hein, mais on va quand même rester un peu honnête et se dire, c'est pas le meilleur PSG, donc attention au sprint final non plus.
Ah, mais c'est ça qui est fou, parce qu'il y a des années, vous savez, toutes les années où le Paris Saint-Germain a perdu le titre, que ce soit contre Lille et Monaco, à cette période-là, ils étaient déjà devant. Ils étaient devant depuis même février. Là, on n'a jamais, entre guillemets, perdu le titre. Enfin, si on remonte aussi longtemps qu'avant QSI, on n'a jamais perdu le titre avec 6 points d'avance. Ce serait catastrophique.
C'est vrai que même quand le PSG perdait le titre, le sprint final était plutôt bien géré. Quand tu perds contre Lille il y a deux saisons, tu fais une fin de saison qui est plutôt bonne, c'est le reste qui n'était pas très bon. Mais ouais, non, c'est clair que perdre ce titre alors que tu as été premier toute la saison, sur une fin de saison qui est catastrophique, ce serait encore une belle pièce dans le puzzle du Paris Saint-Germain, on va dire. Bon. Encore une fois, on y verra plus clair dans 8 jours.
D'ailleurs, toi, tu fais partie des gens qui espéraient une défaite pour sauter Galtier ou... Non, je suis supporter parisien, je veux pas de défaite.
Non, moi, je pense pas que virer Galtier à 8 journées de la fin de la Ligue 1, ce soit vraiment utile. Non, je souhaitais pas une défaite. Après, en fait, disons que la seule raison pour laquelle j'aurais pu souhaiter une défaite, c'est juste pour déjà parce que je trouve que sur l'ensemble de la Ligue 1, même si c'est terrible à dire, le PSG mérite pas forcément d'être champion plus que Lens ou Marseille. Voilà. Donc peut-être leur rappeler ça aussi. Et ouais, juste que en fait le PSG a l'air de réagir uniquement quand ils sont dans une situation d'urgence et quand ils sont mis dos au mur. Donc là vraiment ils auraient été dos au mur en situation d'urgence et ça aurait été peut-être un électrochoc qu'il aurait fallu. Après voilà, effectivement, s'il y avait une défaite je pense que deux fêtes, Galtier aurait sauté. Mais je l'aurais pas sauté pour ces raisons-là en tout cas.
Ok. Bon, ben, je suis désolé, après une heure, vous avez peut-être l'impression que le Paris Saint-Germain a perdu ce soir, mais non, on a bien gagné.
Ah non, c'est pas le seul.
On a gagné 2-0. Et puis, du coup, on va se retrouver la semaine prochaine. Dans la semaine, on va faire des lives comme d'habitude. Donc voilà. N'oubliez pas qu'ici, c'est Paris. On a gagné 2-0. On a 6 points d'avance. On est nul. Mais au moins, on a gagné et on est premier.
L'important, c'est les 3 points.
L'important, c'est les 3 points.